Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude qui nous aide à avoir des idées pour l'évangélisation. Le but, c'est quoi dire quand on parle du Seigneur. Puis le but, c'est sûr, je ne demande pas de retenir tout par cœur, mais des fois, en parlant, vous allez entendre un verset, vous allez entendre quelque chose qui peut, ça va vous être des outils dans votre esprit pour être capable de répondre. Puis là, de l'étude dernièrement, on a parlé beaucoup des prophéties. C'est ça qui est miraculeux et puissant. Dieu a annoncé d'avance les choses pour que, quand ils sont arrivés, voilà 2000 ans, les gens étaient déjà dans l'attente de voir ces choses-là. Puis quand c'est arrivé, il y en a plusieurs qui ont cru. Puis c'est ça que Dieu fait. Il avertit d'avance avant de faire quelque chose. Mais il est obligé de venir en personne. C'est ça le thème aujourd'hui. Dieu, il est venu nous parler en personne. Parce que quand tu regardes dans l'Ancien Testament, là, tu regardes l'histoire du peuple juif et des autres peuples qu'il y avait autour, là, mais quand tu lis ça, tu vois la misère du monde. Tu vois comment les gens étaient dans l'obscurité, comment est-ce que le diable a fait pour amener la destruction puis la mort dans le monde. Depuis Adam et Ève, là, le péché est entré dans le monde, le péché, après ça, c'est des jugements de Dieu, que la planète a été détruite, après ça, les peuples qui sont renés, les guerres entre les peuples, puis le monde s'entretuait, puis le monde, il était loin de tout savoir comment faire pour être sauvé, là. Puis il était loin de marcher dans le chemin pour être sauvé. Aujourd'hui, il n'y en a même pas, mettons, 10% mettons, de la population qui est sauvée. Mais dans ce temps-là, c'était même pas 1%. Il y avait des milliards de personnes sur la planète, de tout peuple, de toutes sortes de peuples, qui vivaient n'importe comment, mais dans l'obscurité d'un ténèbre, puis parce que le monde ne savait pas quoi faire pour être sauvé. Il y a juste une poignée de Juifs qui comprenaient, puis qui marchaient en relation avec Dieu. Les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu. Puis même dans le temps de Jésus, même les théologiens bibliques de ce temps-là, ils savaient même pas les choses de base pour le salut comme naître de nouveau. Pourtant, Jésus était étonné. Il dit, t'es docteur de la loi, puis tu sais pas ces choses. C'était des choses qu'il aurait dû savoir, parce que c'était déjà écrit dans l'Ancien, mais le monde comprenait pas. Il lisait les histoires comme étant un peuple, puis conquérir les autres peuples, c'est rien qu'à ce niveau-là, de guerre avec les autres, c'est juste ça qu'on prenait, le côté spirituel de la communion, de revenir à l'Éternel et de demeurer avec l'Éternel, ils comprennent rien là-dedans. Et comme je vous disais, les questions comme comment peut-on être sauvé ou comment faire pour avoir la vie éternelle, là, le monde y était dans l'obscurité, ils appellent ça être dans les ténèbres. Puis le monde entier était sous la puissance du malin. C'est ça que la Bible a dit comme... il fallait que Dieu vienne sur la terre pour nous éclairer. Quand on dit qu'on éclaire, là, mettre la lumière là-dedans. Là. Allumer la lumière, éclairer, c'est pour que le monde comprenne. Le plan de Dieu, c'est qu'il voulait que les gens soient sauvés. Tiens, on mène à cela. C'est le plan. Dieu n'a jamais fait le monde pour avoir le plaisir de tous les voir s'en aller dans les temps de feu pour l'éternité. Toutes ces âmes-là sont scrap. Ils seront plus là. Puis quand on dit d'âme, c'est pas des automobiles, c'est pas des maisons, c'est des humains vivants comme nous. Des âmes vivantes qui s'en vont pour l'éternité dans la perdition parce qu'ils ne savent pas comment faire pour être sauvés. Fait qu'il fallait que Dieu vienne lui-même en personne venir nous éclairer, nous apporter la lumière sur la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Ça, c'est la question la plus importante pour notre vie, ce qui devrait nous préoccuper chaque jour. Puis ceux qui l'ont reçu, qui l'ont trouvé puis qui l'ont reçu, c'est le sujet de notre réjouissance si on sait comment faire. Puis t'es embarqué. Il n'y a pas d'autre chose qui compte que cela pour le temps qu'on a à vivre comme priorité. Il y a d'autres choses à faire dans le plan de Dieu, mais savoir que t'es sauvé, t'as le bonus. T'as gagné la guerre, t'as gagné la vie, t'as gagné ta place, pas par toi t'as gagné, c'est à t'es donné par Jésus. La multitude sur la terre marchait dans les ténèbres. Quand je dis les ténèbres, c'est toujours l'idée de l'ignorance, parce qu'ils sont aveuglés par le diable. Mais Dieu a déclaré une parole dans l'Ancien Testament, une prophétie, ce qui est une promesse. Dans Isaïe, là, ça dépend des Bibles, des fois c'est à la fin du verset, du chapitre 8, là, c'est le verset 23, ou des fois c'est Isaïe chapitre 9, le verset 1. Ça dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. » C'est Dieu qui a dit ça. « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. » Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, des païens, notre territoire. L'autre verset, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est une prophétie, celle-là, qui annonçait la venue de quelque chose qui nous éclaire. C'était quelque chose-là, c'est une personne. C'est Dieu lui-même qui est venu nous éclairer. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Puis cette parole-là s'est accomplie quand Jésus a passé dans ce territoire-là. Ça le dit que dans le territoire de Zabulon, de Naphtali, une grande lumière s'est levée. C'est le passage du Messie qui marcha sur cette terre. Dieu lui-même, fait homme, qui est venu pour parler puis apporter la lumière. Ses enseignements, ses révélations, son message, c'est la lumière qui est là pour éclairer tous les hommes. Puis Dieu a annoncé ça d'avance que c'était pour se produire, parce que les ténèbres régnaient sur toute la terre. La venue du Messie était annoncée. La venue de celui qui apportera la lumière aux nations. Il y a un autre passage dans Isaïe qui est en cours, une autre prophétie qui annonçait la venue de celui qui amène la lumière. Il dit, mon peuple, sois attentif. Isaïe 51, verset 4. Ma nation, prête-moi l'oreille. C'est un peu encore que ce qu'on disait un matin, que ce qu'on entendait des prophéties. Écoutez-moi, prêtez-moi l'oreille. Dieu veut parler. Car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Parle pas de la loi de Moïse, là. Elle était déjà sortie dans ce temps-là. C'est Dieu qui est en train de révéler qu'il va avoir une autre loi qui va s'installer, la loi de l'esprit et vie, la loi de Christ, les enseignements de Jésus, les enseignements de la nouvelle alliance, que c'était pour arriver sur la planète, pour être la lumière des peuples. C'est pour nous aussi, pas juste pour les Juifs. On a dans nos mains les révélations qui nous éclairent dans la Bible. Il dit, ma justice est proche, la justice de Christ. Mon salut va paraître, parle du Messie qui s'en venait, qui est le salut de tous les hommes. Et mes bras jugeront les peuples, les îles espéreront en moi, nous sommes de ceux qui habitent les îles. Puis se confieront en mon bras. C'est ce qu'on est en train de faire. On se confie dans le bras de l'Éternel qui agit encore aujourd'hui à cause que celui qui devait venir pour amener sa loi qui était pour être une lumière, mais les nouvelles lois spirituelles, nouvelles méthodes pour être sauvé, mais une nouvelle manière plus facile. Puis on va le voir dans une autre étude plus tard, que dans la nouvelle alliance, c'est une alliance qui était plus facile d'arriver au salut que l'ancienne. Grâce à qu'est-ce que le Messie est venu nous apporter. Jean-Baptiste, lui, j'en parle quasiment à toutes les réunions de lui, parce qu'il est un point tournant, lui-là, pour préparer la venue du Messie. Préparer la venue de celui qui est la lumière qui venait dans le monde pour nous éclairer. Jean-Baptiste a été désigné par Dieu pour nous présenter cette lumière qui doit nous éclairer. C'est ce qu'on voit dans Jean 1, le verset 6, à partir du verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Salut. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. De quelle lumière qu'on parle? La lumière qui est annoncée dans l'Ancien Testament des prophéties. La lumière est annoncée qui viendra, puis Jean-Baptiste est celui qui était là pour préparer, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Fait que le témoignage de Jean-Baptiste, c'est d'amener tout le monde à croire en la nouvelle lumière qui s'en venait. À croire dans ce qui il était, puis à croire dans ce qu'il disait. Puis là, ça dit, ça spécifie en parlant de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière qui est la véritable lumière, la vraie lumière. C'est pour ça qu'on, Jésus, quand il parlait, il disait en vérité, il est la véritable lumière, l'authentique lumière, ce qui est conforme, ce qui est exactement ce qu'on devait entendre. Jésus, Yeshua, ça dit qu'il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voyez-vous, ce que Jésus apportait comme qu'est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il apportait dans ce qu'il disait, nous est resté par écrit, puis 2000 ans encore, à plus tard, on apprend encore des choses, puis ça qui nous permet de comprendre le chemin, puis d'être sauvés. C'est vraiment formidable. Merci Seigneur. Les gens de son époque, à Jésus, ils attendaient celui qui viendrait de Dieu pour annoncer les paroles de Dieu. On va dire, ben oui, les rabbins, eux autres, le savaient qu'il viendrait un Messie, mais même le monde du peuple, le petit monde du peuple, attendait la venue du Messie. Alors regardez que dans Jean 4, 25, en parlant de la femme samaritaine qui rencontre Jésus, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle a dit à Jésus, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Voyez-vous, la femme samaritaine qui était une femme qui était même pas juive, c'était une femme qui était même méprisée, parce que les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. Il n'y a pas personne qui lui parlait aux Samaritains. Puis là, Jésus s'en va avoir spécifiquement elle pour y parler, puis elle attendait, elle savait qu'il viendrait le Messie, le Christ, celui qui était pour nous dire toutes les choses qu'on avait besoin d'apprendre. Puis elle, tu vois que Dieu avait déjà préparé des cœurs à recevoir le message du Messie. Comme j'ai dit la semaine passée dans le verset Jean 1, 17, ça dit, « La grâce et la vérité sont venues par le Messie. » C'est ce que ça dit dans Jean 1, 17. « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce, le cadeau du salut, et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Puis quand on parle de la vérité dans ce texte-là, c'est ce qui est certain, ce qui est sûr d'être vrai. Jésus est venu pour nous éclairer sur les vraies affaires qu'on avait besoin de savoir afin d'être sauvés. Il fallait qu'il nous explique les choses, il nous explique le plan de Dieu, puis grâce à ses révélations, le monde a commencé à comprendre puis à se convertir. Mais il fallait que cette lumière-là vienne descendue du ciel. Avant cette révélation-là, le monde, ça va pas se garocher. Ça vivait n'importe comment. Puis il y en avait très peu qui marchaient réellement en communion avec Dieu. Jésus s'est présenté, quand il a commencé à parler à tout le monde, comme étant la lumière. Il s'est présenté comme étant la lumière que le monde attendait, apportant la lumière qui procure le salut. C'est ce qu'on voit dans Jean 8, le verset 12. Ça dit, « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On voit là-dedans que les paroles de Jésus qu'on dit, les paroles de vérité, les paroles certaines, que si tu suis Jésus, puis t'écoutes ses paroles, tu marcheras pas dans les ténèbres. S'il y a des gens quelque part sur la planète qui cherchent à connaître c'est quoi la lumière, c'est quoi la vérité, c'est quoi qui est certain pour être sauvé, mais suis Jésus, c'est lui le sauveur. Suis Jésus, puis tu marcheras pas dans les ténèbres, tu vas marcher toi-même dans la lumière. Puis c'est ça que Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Quand tu suis Jésus, tu deviens automatiquement un porteur de cette lumière, puis tu deviens une lumière dans ce monde. C'était la lumière prophétisée qui était pour atteindre toutes les nations. Jésus, lui seul, il n'a pas atteint toutes les nations, mais ses disciples, oui, la lumière a continué à se répandre. La lumière, en fin de compte, qui nous est restée, c'est le bagage de connaissances que le Messie est venu nous apporter. La parole de Dieu. Les paroles de la Nouvelle Alliance. On a vu dans la semaine passée que Jésus, le Yeshua, Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Dieu, il est venu nous visiter. C'est la parole faite chair. Fait que chaque fois que tu vois dans l'Ancien Testament que Dieu parle, comme Dieu dit que la lumière soit, puis la lumière fut. Celui qui disait, là, c'est Jésus qui parlait. C'est lui qui est la parole qui s'est faite chair. Jésus n'était pas n'importe qui, c'était Dieu qui commande aux choses, puis les choses se mettent en place. C'est vraiment là, ses paroles sont puissantes. C'est pas, bon, il a dit ça, mais faut t'en prendre, faut t'en laisser. Non! Qu'est-ce que Jésus dit? C'est ça. Point. C'est la vérité. On est libre d'adhérer, il force pas personne, mais moi je vous dis, passez pas à côté de ce que Jésus a dit. Suivez Jésus pour demeurer dans la lumière. Jésus, avant sa venue, le Yeshua, c'était le Dieu créateur, celui qui soutient tout par sa parole puissante. Si on le sait qu'on est formé d'atomes, hein? Je sais pas si vous avez fait un petit cours en biologie ou en sciences ou en physique quand vous étiez à l'école. Tout est composé d'atomes. Des atomes, là, c'est comme une petite boule avec des électrons, des protons, des neutrons, puis ça se promène comme si ça serait une planète, un soleil avec des planètes autour, mais c'est tout microscopique, l'atome. Puis il y a des atomes de différentes compositions, comme il y a des atomes d'aluminium, il y a des atomes de fer, il y a des atomes de plastique, il y a des atomes qui forment les différentes choses en mélangeant tout ça. Mais si ça se tient tout ensemble pour être ce que c'est à cause que Jésus maintient toute chose en existence. Jésus n'a rien qu'à lâcher de vouloir que ça soit là, puis il arrête de maintenir tout ça, là. Disparaissait tout, qu'il n'y aura plus rien qui existe nulle part. C'est ce qui va arriver un jour, tout le ciel et la terre vont passer, mais ses paroles ne passeront point. La Bible le déclare. Puis on voit ça dans Hébreux 1, chapitre 1, verset 2, on l'a déjà vu ce verset-là ensemble, mais ça fait du bien de les revoir. Il dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier par lequel il a aussi créé le monde. Dieu a créé le monde par Jésus. C'est Jésus qui a ordonné pour que les choses se mettent en place. Ça dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu puis l'empreinte de sa personne. Et l'autre verset, soutenant toute chose par sa parole puissante. Jésus soutenait, il soutient encore aujourd'hui, toute chose par sa parole puissante. C'est lui qui est dans les cieux présentement, puis qui maintient toute la planète, tout l'univers par ses paroles. Ça, il maintient toute chose en existence. Fait que quand on dit Dieu dit quelque chose, on devrait tout arrêter puis écouter ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est les paroles qui donnent la vie. C'est les paroles qui maintiennent la vie. Si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est parce qu'il vous maintient en existence. S'il décide, il vous en retire le souffle. le cordon est coupé, tac, vous tombez à terre, plus de respire, vous êtes mort. C'est lui qui maintient, qui nous donne la vie, la respiration et l'être. Si on existe, parce que c'est lui qui nous a créés et qui nous maintient en vie. C'est ses paroles, il commande, puis les choses se mettent en place. Quand Jésus parle, Yeshua, le Fils de Dieu, appelez-le comme vous voulez, Dieu lui-même fait homme, quand il parle, les choses se font. Puis quand il parle, ça arrête à sa volonté. Il est puissant. Nous, là, quand on est en train d'essayer de comprendre tout ça, il faut que tu analyses tous les versets pour arriver, puis à un moment donné, tu le sais, mais ça prend du temps avant de saisir toutes ces idées-là. Ça nous dit dans la Bible, c'est par la foi qu'on peut arriver à comprendre ces affaires-là. C'est pas nécessairement parce qu'on a fait une chose comme tu prends d'une couleur, puis une autre couleur, tu les mixes ensemble, ça devient une autre couleur. Par l'expérience, on peut voir un résultat, mais pour arriver à découvrir les choses invisibles, faut y aller par la foi. Puis la Bible elle nous dit, c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui a été créé, ça a été créé par la parole de Dieu. Yeshua, par la foi, c'est ce que ça nous dit dans Hébreux 11.3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, la parole faite chair. C'est Yeshua qui a tout créé. Il est venu en forme humaine, c'est Dieu lui-même qui est venu nous parler. En sorte, ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Jésus le Christ est venu nous apporter les paroles, les lumières qui peuvent nous sauver. Dans Actes 11-13, on va comprendre cette idée-là, avec ce verset-là. C'est dans le témoignage de Pierre qui est en train de parler avec Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui en disant « Envoie Jopé, fais venir Simon, surnommé Pierre. » Puis écoutez bien le verset 14. « Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. » Il fallait que Corneille, c'était déjà un gars qui croyait que Dieu existait, c'est un gars qui priait, c'est un gars qui faisait des aumônes, mais il n'était pas sauvé. Puis pour être sauvé, il fallait qu'il entende des paroles spécifiques venant de Pierre pour y dire les vraies affaires qui sauvent. Puis c'était quoi ces vraies affaires qui sauvent là? C'est les paroles qui sortaient de la bouche du Messie qui amènent le salut, qui amène les gens à la repentance, qui amène les gens... Ce qu'on a compris, nous, qui a permis qu'on soit sauvés, il fallait qu'ils l'entendent. Le salut vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend vient de ce qui a été prêché dans la parole. Il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Toi et toute ta maison. Il fallait que les gens s'attachent à la révélation, les lumières que le Messie est venu nous apporter. Nous aussi, nous avons été sauvés par la parole qui vient du Messie. Dans Jacques 1,18, ça nous le dit. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité. Fait que c'est à cause qu'on a entendu la parole de vérité, les lumières qui venaient du Messie, les paroles puissantes que quand que Jésus parle, ça sauve, ça délivre, ça agit puissamment, les démons s'enfuient, les paroles sont extrêmement puissantes, sont vraies. C'est ces paroles-là qu'on a reçues, puis c'est à cause qu'on les a reçues qu'on a été engendrés pour devenir enfants de Dieu, pour être sauvé, puis recevoir le Saint-Esprit. Ça a toute une suite par rapport à qu'est-ce qu'on a fait des paroles de Jésus quand on l'a entendu. On y a-tu cru? Oui. On y a cru, on les a reçus, puis le salut embarqué. C'est de même que ça marche. Qu'est-ce qu'on fait de Jésus, c'est une chose, puis qu'est-ce qu'on fait des paroles de Jésus, c'est ça qui est important. Et Jésus dit, peut-être vous croyez pas en moi, mais croyez au moins en ce que je fais pour savoir que ce que je fais, c'est vrai. Vous allez, tu sais, puis c'est ça qu'on a cru aussi. On a cru en ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, puis ce qu'il a fait qu'on a reçu. Puis c'est pour ça que le salut est rentré dans notre maison, est rentré dans notre vie. Les paroles sorties de la bouche de Dieu sont encore des paroles vivantes et puissantes pour transformer des vies. C'est les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Dans Hébreux 4:12, ça dit, car la parole de Dieu, c'est Jésus, la parole faite chair, la parole de Dieu est vivante et efficace. Même encore 2000 ans plus tard, elle sauve encore des vies. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, il y a des gens que leur vie change à cause qu'ils ont laissé rentrer la parole de Dieu dans leur vie. Le Saint-Esprit sert des paroles de Dieu, puis il fait la transformation. Il dit, la parole de Dieu est vivante, est efficace, est notre épée. Est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, est pénétrante jusqu'à partager l'âme puis l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments puis les pensées des cœurs. Est puissante, les sont puissantes, les paroles de Dieu. C'est aussi pour ça que par les paroles puissantes du Messie que les démons sortaient puis que les gens étaient guéris. Dans Matthieu 8:16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole puis guérit tous les malades. Ce qui sort de la bouche du Messie, c'est les lumières qui devaient nous amener le salut, les délivrances, les guérisons, les transformations. C'est la puissance de Dieu qui est venue, qui est encore là aujourd'hui, agissante dans le monde. Puis c'est annoncé que c'était pour arriver, puis visiter même les païens, nous, 2000 ans plus tard. Tant que Jésus n'est pas revenu, c'est encore en train d'agir. Les paroles du Messie transmises par les apôtres étaient reçues comme les paroles de Dieu. Ces paroles-là agissaient en tous ceux qui y croient. Parce qu'il faut que tu y croies. On l'a dit dans les prophéties, ça a été dit à matin. Il fallait y croire aux paroles de Dieu pour voir les choses se mettre en marche. La parole de Dieu est agissante dans ceux qui y croient. Tu peux en entendre parler, là, plein de paroles, puis ça rentre là, puis ça sort là, tu verras pas les choses s'accomplir. Si tu y crois, tu t'accroches, tu vas voir des choses s'accomplir. Parce que ça l'agit dans ceux qui croient. Dans 1 Thessaloniciens 2:13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, puis Paul, il dit, ce qu'on vous a expliqué, c'est les paroles du Messie. La parole faite chair, c'est le Messie. On répète ce que lui a dit. Puis ce qu'on vous a fait entendre, c'est les paroles du Messie, les paroles de Dieu. Il dit, vous l'avez reçu. Ces gens-là l'avaient reçu, ils croyaient au Messie. Il dit, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais comme elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. Ils l'ont reçu pas comme, c'est Paul qui parle. Non, ils ont reçu ce que Paul disait comme étant la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu, même si tu l'entends par un disciple, s'il dit la parole de Dieu, crois-la. Puis tu vas la voir agir dans ta vie, cette parole-là. Parce que c'est la parole du Messie. La puissante parole qui maintient toute chose en existence est vivante, est puissante, puis elle agit encore aujourd'hui. Tiens, amen de temps en temps. Les paroles de la bouche de Dieu sont aussi une nourriture spirituelle pour nous garder dans la foi puis nous assurer notre croissance dans le Seigneur. Dans 1 Pierre 2:2, ça dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés. » Un enfant nouveau-né, là, quand il a soif, il te le montre qu'il désire du lait. « Ouais, ouais, ouais. » Là, il broille, puis il broille, puis tant qu'il n'en donne pas, il aveugle. Mais il dit, soyez comme des enfants nouveau-nés. Désirez le lait spirituel et pur, comme des enfants nouveau-nés. C'est pour tous les chrétiens, ça, c'est pas juste pour les nouveau-nés. Tous les chrétiens doivent avoir soif d'absorber la parole de Dieu. Que ce soit par vos yeux ou par vos oreilles, il n'y a pas d'autre moyen que ça pour les laisser rentrer. Mais si tu peux pas respirer ça, là, puis même, à moins que tu lis le braille, tu es capable d'y toucher, puis là, tu te mets à brailler en suivant ça. Mais ça dit à tout le monde, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, puis il y a une raison. Paul, il dit la raison. Afin que par lui, ce lait spirituel et pur-là, vous croissiez pour le salut. Si tu veux une croissance spirituelle dans ta vie, c'est sûr que physiquement, on n'a pas eu besoin de la chercher, mais il a fallu qu'on se nourrisse pour avoir une croissance physique. Mange pas, tu n'auras pas de croissance physique. Tu n'atteindras pas ta pleine maturité en santé, puis tu risques même de mourir si tu manges pas quand tu grandis, quand tu es dans ta vie physique. Mais la vie spirituelle, c'est la même affaire. Mange pas de la Bible, là, tu m'en parleras de ta foi. Mais je pense que tu vas parler plus de tes doutes que de ta foi. Les chrétiens là qui sont remplis de doutes, là, souvent c'est du monde qui ne lise pas gros le Bible. Je chicane pas, là, je fais juste le dire. Si tu lis, il dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu vas t'en nourrir, plus tu vas te renforcer dans le Seigneur. On vient à l'église, on est en train de manger un bon lunch spirituel là, présentement. Mais quand on sort pour le reste de la semaine, il faut que vous continuez à manger chez vous. Trouvez des manières pour vous nourrir. Lisez au moins, c'est pas à moi de vous dire quelle quantité à lire. C'est pas à moi qui va vous dire qu'un quart de tasse, une demi-tasse ou trois quarts de tasse de gruyot à manger pour déjeuner. C'est pas à moi de vous dire ça. Mais dans le Seigneur, vous avez une portion à aller chercher à tous les jours si vous voulez au moins survivre spirituellement. Si tu veux croître pour le salut, désire comme un enfant nouveau-né le lait spirituel et pur. C'est la parole du Messie, c'est la lumière de Dieu qui nous a été donnée pour nourrir notre foi, pour qu'on soit solide dans le Seigneur. Tous ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu et qui l'enseignent sont des bons serviteurs de Jésus-Christ. C'est ça que la Bible dit dans 1 Timothée 4:6. Paul dit, parle à Timothée, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourris des paroles de foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Lui, Timothée, il était enseigné dans la bonne doctrine. C'est Paul qui y parle. C'est sûr qu'il est enseigné des vraies doctrines. Il n'a pas entendu de déraillement trop. Tout ce qu'il a entendu, Timothée, c'était la sainte doctrine. Et tu t'es entendu, tu t'es nourri de la sainte doctrine, tu t'es nourri des paroles de foi, mais expose ça aux autres, puis tu vas être un bon serviteur de Jésus-Christ. Puis dans un sens, spirituellement, on est tous supposés de s'en nourrir, et tous on est capable d'expliquer des affaires. Tous sont capables de parler même à des gens dans le monde pour dire des choses que Jésus a faites dans vos vies ou des phrases qui vous ont touché, des paroles de Dieu pour amener vos familles, amener vos amis au salut. Le prochain verset, j'en ai déjà parlé, mais c'est des versets qui font mal parce que c'est sûr qu'un jour, tout le monde va avoir à faire face au jugement devant Dieu. Puis ce jugement-là va être face aux paroles de Jésus. Ça dit dans Jean 12, le verset 47, « Si quelqu'un entend mes paroles, c'est Jésus qui parle, et ne les garde point. » Ouch! Il est venu pour apporter la lumière, puis les gens, ils les gardent pas. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne veulent pas le savoir. ça lui passe par une oreille, ça par là. Achale-moi pas avec ça. C'est ça qu'ils font, là. Nous, c'est le contraire. On veut en entendre parler. Quand vous venez à l'église, avez-vous cette soif-là? Je veux en entendre des choses qui viennent de la parole, qui vont me bénir, qui soient sorties de là. Ça va faire du bien. Mais Jésus dit, quelqu'un entend mes paroles puis il les garde point. Il dit, c'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour les sauver, pour sauver le monde. Mais celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ça veut dire que même après que la planète soit détruite et que tout existe, tout ce qu'on voit n'existera plus, les paroles de Jésus vont être encore là, l'autre bord, en train de juger toutes les âmes qui ont vécu sur la planète. Faut pas oublier, comme c'est dit aussi dans un autre verset, que les paroles du Seigneur continueront d'agir éternellement. Dans 1 Pierre 1, 25, je finis avec ce verset-là. Mais la parole du Seigneur, les paroles du Seigneur demeurent éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. On n'a pas besoin de chercher loin. On l'a tous dans nos mains, la parole du Seigneur. Puis il dit, rejette pas ce qu'il y a là. Parce que si tu rejettes la parole, tu rejettes Jésus avec. Ben beau dire, oh, je crois en Jésus, puis il n'est pas intéressé de savoir ce que Jésus a dit, puis il n'est pas intéressé encore moins d'observer, de mettre en pratique ce que Jésus dit. Parce que quand il dit garder ses paroles, c'est pas un les savoir par cœur, c'est du monde qui cherche à les mettre en pratique. Si Jésus dit, tourne à gauche, ah, je sais qu'il veut que je tourne à gauche, ben moi je tourne à droite. T'es-tu en train de garder ses paroles? Non. Garder, c'est de mettre en pratique. Cherchez à mettre en pratique ce que Jésus dit. Il dit dans un autre passage, « Mettez en pratique la parole et ne vous trompez pas par des faux raisonnements. » Parce qu'il y en a qui cherchent des moyens de réfléchir pour pas avoir à mettre en pratique. Nous, Jésus, il dit, « Suis-moi. Si tu veux suivre Jésus, tu vas te mettre à obéir ce qu'il dit. » On est-tu du monde qui veulent marcher pour Jésus et avec Jésus? Mais le Messie est venu pour nous. C'est par cela qu'on est sauvé. Il nous a donné sa lumière. On l'a saisi. On le croit. On marche par la foi dans ce qu'il a dit. Puis notre foi grandit parce qu'on se nourrit de la parole de Dieu. Amen.